Alors, bonjour à chacun. Donc vous avez le sujet là, le miracle de Jean 6. Bon, ce miracle c'est la multiplication des pains. Alors on va voir trois chapitres, les circonstances de ce miracle, la gloire et la grâce de ce miracle, et aussi la réaction inappropriée de la foule. Voilà, j'ai trouvé sur Internet une petite image là qui montre un peu à quoi ça peut ressembler peut-être, hein, cette multiplication des pains. Vous voyez cette grande foule, puis ce petit panier là avec quelques pains de poisson. Voilà. Alors voilà l'endroit où ça se passe. Vous avez là le lac de Tibériade, ce lac qui est au nord de la Palestine. Et vous avez tout en haut la ville de Capharnaüm ou Capernaüm, où Jésus avait probablement son PC, dans la maison de Pierre d'ailleurs, semble-t-il. Et puis vous avez une petite ville sur la droite, là, donc à l'est, qui s'appelle Bethsaïda. Et c'est dans ce coin-là que l'histoire va se passer. C'est-à-dire, pas loin du bord du lac, mais c'est déjà une région un petit peu montagneuse. C'est déjà le début de la colline qui va plus loin être le massif du Golan. Alors, je vous ai mis le texte là, de Jean 6, on va le lire ensemble. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, alors la montagne c'est une petite colline, hein, c'est pas l'Everest, hein. Et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Mais du coup, pour une fois, Jésus n'est pas allé à Jérusalem pour la Pâque. Non. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, un de ses disciples, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Oh, tiens, je sais pas. Voilà. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent, 200 deniers, ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Il faut dire qu'on est proche de la Pâque, donc au printemps, et que dans ces régions, il y a de l'herbe. L'herbe est verte, avant qu'elle ne sèche après avec l'été. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et là, j'ai précisé qu'il s'agit d'hommes au sens masculin, Andrés. Hein ? André, c'est un homme. Jésus prit les pains, remercia Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que des hommes, hein, que des papas. Hein. Il y avait aussi certainement des femmes, des enfants. La preuve, c'est qu'il y avait un gamin avec des pains et des poissons. Mais ça veut dire que le chiffre de 5000, est certainement, c'est beaucoup plus. Hein. Voilà. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples, qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. On va lire dans les autres évangiles les circonstances de ce miracle. On ne va pas lire l'histoire de la multiplication des pains, là on l'a lu, hein, mais au moins les circonstances. Vous voyez dans Luc, chapitre 9, les deux premiers versets, et puis les versets 10 à 13. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Puis là, il y a un passage que je ne vous lis pas. On saute au verset 10. À leur retour, donc ils reviennent de mission, hein, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Hein, c'est ce qu'on a vu sur la petite carte, là, la petite ville Bethsaïda, qui est de l'autre côté du lac. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Autre passage, Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 16. À cette nouvelle, la nouvelle en question, c'est la mort de Jean-Baptiste, qui a été rapportée à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, à partir du verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Je vous rappelle qu'ils revenaient de mission. Hein ? Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Voilà, donc on a lu l'ensemble des textes qui se rapporte à cet épisode. Alors cet épisode de la multiplication des pains et des poissons pour 5000 hommes est le seul miracle de Jésus qui nous soit rapporté par les quatre évangiles. Comme s'il y avait une insistance peut-être particulière du Saint-Esprit sur ce miracle-là. J'ai précisé donc pour 5000 hommes, car ce détail distingue cet épisode d'un autre qui lui ressemble beaucoup, qui est décrit en Matthieu 15, où Jésus a nourri 4000 hommes, et d'autres détails, comme le comptage du ramassage des restes, qui n'est pas le même. Hein. Donc on voit bien que c'était tout à fait deux épisodes différents. Alors je vous propose de voir ensemble, comme je l'ai dit, les circonstances du miracle, la gloire et la grâce du miracle, et la réaction complètement à côté de la foule. Les circonstances du miracle. Deux éléments remarquables. Jésus vient d'apprendre la mort de Jean-Baptiste. Deuxième circonstance, Jésus souhaitait prendre un temps de repos avec ses disciples. Alors la mort de Jean-Baptiste, elle est rapportée par Matthieu et par Marc, et d'ailleurs c'est ce dernier qui donne le plus de détails. Jésus vient d'apprendre cette nouvelle, alors que ses disciples reviennent de la mission qu'il leur a confiée. Le contraste est frappant. Les disciples rapportent avec enthousiasme les victoires qu'ils ont remportées sur le prince des ténèbres. Ils ont proclamé la bonne nouvelle et l'imminence du royaume de Dieu et en ont apporté la preuve en guérissant des foules de malades et en chassant des démons. Mais Satan a réussi à faire taire la voix du prophète, qui disait trop la vérité, hein, Jean-Baptiste. Jean le baptiseur, cousin germain de Jésus, celui qui a été envoyé devant lui par le Père pour préparer son chemin, a été mis à mort par un roitelet fourbe et cruel, Hérode Antipas, et cela pour satisfaire la jalousie d'une femme adultère. On peut facilement imaginer les sentiments d'horreur et d'indignation que cette nouvelle ont pu inspirer à Jésus. Jésus souhaitait prendre un temps de repos avec ses disciples. Les disciples reviennent de mission, remplis d'enthousiasme à cause de ce qu'ils viennent de vivre. Jésus souhaite prendre un temps de repos avec eux pour faire retomber un peu la pression et recadrer quelque peu aussi le sens de leur expérience, pour extraordinaire qu'elle soit. Vous vous réjouissez que même des démons vous soient soumis, c'est bien. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel, leur dit-il. Et donc Jésus les emmène à l'écart des foules dans un lieu réputé désert. De l'autre côté du lac de Tibériade, ils y vont en barque, probablement pour éviter d'être suivis. Eh bien, c'est complètement raté. Ils ont à peine mis le pied à terre que les gens sont déjà là. Matthieu 14, 14 nous dit « Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Il guérit les malades et il leur enseigna beaucoup de choses. » Alors, la gloire et la grâce du miracle. Jésus a probablement passé la plus grande partie de la journée à guérir les malades amenés par cette foule et à les enseigner. Il commence à se faire tard, les disciples s'inquiètent. Maître, renvoie la foule car il se fait tard et ce lieu est désert. Jésus va-t-il s'offusquer de ce que ses disciples lui donnent ce conseil ? Non, mais il va les mettre à l'épreuve. Vous venez de vivre des choses extraordinaires, vous avez pris un peu la grosse tête. Eh bien maintenant, vous, donnez-leur à manger. Alors l'un d'eux, Philippe, sort sa calculette. Voyons, sont environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Bon, calcul. Pour que chacun reçoive au moins une bouchée, il faudrait disposer d'au moins 200 deniers. Et encore, je calcule au plus juste. Un denier, c'est le SMIC journalier de l'époque. Seigneur, tu vois bien que c'est pas possible. Là, un autre disciple, André, avance un truc plutôt idiot. Il y a là un gamin qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Il se rend compte aussitôt de la bêtise qu'il vient de dire. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Ces réactions de Philippe et d'André, à l'ordre de Jésus de donner eux-mêmes à manger à la foule, sont aussi inadaptées l'une que l'autre. Ils touchent l'un et l'autre le fond des possibilités humaines et ne peuvent que constater leur incapacité à exécuter l'ordre de Jésus, alors qu'ils étaient tellement contents d'avoir chassé des démons. Là, que faire ? Alors Jésus peut prendre la main et résoudre le problème. Sa grâce l'a fait renoncer au repos qu'il souhaitait prendre avec ses disciples et à la place guérir encore les malades et la foule et les enseigner, les malades de la foule et de les enseigner. C'est cette même grâce qui va maintenant amener Jésus à leur offrir un bon repas. Il va le faire en déployant sa puissance de créateur qui va faire éclater sa gloire. Vous avez noté que Jésus a remercié Dieu avant de distribuer cette nourriture, miraculeusement multipliée et même surabondante, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de restes. Ces détails du récit ne sont pas sans importance pratique pour nous. Nous avons l'habitude, c'est bien les habitudes, n'est-ce pas André ? Nous avons l'habitude de remercier le Seigneur avant de prendre nos repas. C'est plus qu'une bonne habitude. C'est reconnaître que les biens essentiels de cette vie sont des cadeaux renouvelés du Seigneur. Et lui-même nous a enseigné à reconnaître sa main dans le pain quotidien dont nous avons besoin. Elle a lui demandé d'ailleurs. Si Jésus a utilisé la formule juive classique d'action de grâce, il a dû prononcer les paroles suivantes. Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, roi du monde, qui fait sortir le pain de la terre. C'est ce que prononçait le père de famille quand il rendait grâce pour un repas chez les Juifs. Alors que cela ne soit jamais pour nous une routine, mais une expression réelle de notre reconnaissance. Deuxième détail, à mon avis utile pour nous, Jésus a tenu à ce que les restes soient ramassés. 12 paniers pleins des morceaux qui restaient, afin que rien ne se perde. Nous vivons dans une société d'opulence et de gaspillage qui inconsciemment nous influence, nous aussi, chrétiens. Je suis triste de voir, lors de nos repas fraternels, des assiettes qui repartent à la poubelle, parfois à moitié pleines. Bon, c'est généralement le fait des enfants qui, c'est bien connu, ont les yeux plus gros que le ventre. Mais n'est-ce pas notre responsabilité à nous, parents ou grands-parents, de leur apprendre que le gaspillage ne plaît pas au Seigneur ? La grâce du miracle, qui a amené Jésus à nourrir cette grande foule, mais aussi la gloire du Créateur. Cette multiplication des pains et des poissons n'est rien moins qu'un acte de création. Jésus a bien voulu se servir des provisions de la seule personne prévoyante de cette foule, un gamin. Mais c'est sa puissance de créateur de toutes choses qui a multiplié les pains et les poissons. Tout comme cette même puissance de créateur avait changé de la simple eau en bon vin à Cana. Dernier chapitre. La réaction complètement à côté de la foule. Au verset 14, dans Jean, à la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Là, elle n'a pas tort. Jésus est bien le prophète annoncé par Moïse dans Deutéronome 18, verset 15. « L'Éternel ton Dieu fera surgir de toi et au milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. » Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Jésus n'a cessé, dans les chapitres précédents, avant le chapitre 6, là, de répéter que tout ce qu'il enseigne et tout ce qu'il fait lui est donné par le Père. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est la réalisation de cette prophétie de Moïse, très clairement. Mais alors, au verset 15, ça se gâte. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Jean ne donne pas de détails sur cette prémonition de Jésus, mais il a certainement perçu que c'était ce qui allait se passer et il a préféré s'esquiver. Pourquoi s'est-il ainsi soustrait à la foule ? N'était-il pas effectivement le roi des Juifs ? Il le reconnaîtra lui-même d'ailleurs devant Pilate, qu'il est le roi des Juifs. Dans tout le comportement de Jésus, nous pouvons constater qu'il a toujours refusé d'être manipulé. Il a refusé d'être manipulé par sa mère lors des noces de Cana, tout en sauvant malgré tout le déroulement de la fête. Ses frères, au chapitre suivant, le chapitre 7, de l'évangile de Jean, vont aussi essayer de le manipuler en tentant de le convaincre de se rendre à Jérusalem à l'occasion d'une fête, pour qu'il se fasse connaître. Quelle folie que la créature s'imagine pouvoir manipuler son créateur. Son heure, c'est-à-dire celle de sa mort pour expier nos péchés, n'était pas encore venue. Lui seul, en plein accord avec le Père, pouvait en décider. De plus, comme on l'a chanté d'ailleurs, il n'était pas le roi Messie triomphant que la foule attendait, mais un roi humilié et finalement condamné à mort par cette même foule et par ses chefs. Jésus avait déclaré, vous vous en souvenez, je pense, qu'il ne recevait pas sa gloire des hommes, Jean 5, verset 41. il la recevra de la part de son père, lorsqu'il aura achevé l'œuvre qu'il lui avait donnée à faire, c'est-à-dire sa mort sur la croix. Sans cette mort à notre place, nous aurions dû porter la peine de notre péché, c'est-à-dire la mort éternelle. Alors, quelques leçons que nous pouvons tirer de ce récit. C'est plus loin. Voilà. J'ai extrait quatre petites leçons. Jésus a renoncé à un temps de repos qu'il avait projeté de prendre avec ses disciples par compassion pour les besoins des foules. Et nous, sommes-nous prêts à renoncer à certains de nos projets pour nous occuper des autres ? Deuxièmement, c'est quand nous touchons le fond de nos ressources toutes humaines que Jésus peut agir et manifester tout à la fois sa gloire et sa grâce. Philippe et André en ont fait l'expérience. Sachons remercier le Seigneur avec sincérité pour ses dons quotidiens et ne les gaspillons pas. Renonçons à la folie de vouloir manipuler notre Créateur en lui imposant en quelque sorte nos vues. Sachons au contraire discerner sa volonté par sa parole et la prière et marchons comme Jésus l'a fait dans une humble obéissance au Père. Je vous propose de laisser afficher ces quatre petites conclusions pour y réfléchir chacun dans nos cœurs. Et puis je terminerai par la prière. Seigneur Jésus, il est vrai que ce passage nous montre ta gloire et ta grâce. On savait que elle venait par toi, par Jésus-Christ, mais dans ce passage, c'est particulièrement frappant. Ta grâce envers cette foule qui a besoin de guérison, qui a besoin d'enseignement, et à laquelle tu offres un bon repas. Et ta gloire de Créateur. On a chanté dans un de nos cantiques ce matin que ces mains qui ont été crucifiées tenaient le monde dans leurs mains. Tenaient le monde, oui. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Quel paradoxe incroyable de penser que les hommes ont mis à mort, ont crucifié le Dieu de gloire. Mais voilà, c'était tes plans éternels, de toute éternité. Mais tu veux avoir pour l'éternité avec toi des hommes rachetés, des hommes, des enfants, parce que tu en as fait tes enfants. Et nous pourrons contempler éternellement ta gloire et chanter de tous nos cœurs combien nous t'aimons. Merci Seigneur pour ces beaux passages que ton Saint-Esprit a tenu à consigné dans l'Écriture et qui nous montre combien tu es grand et combien l'Évangile est une chose merveilleuse. Amen.